Chapitre 16. Lieutenant Campion.
J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Le chaniversaire a lieu demain, dans le camp retranché du Mont Fortin, ouvert exceptionnellement aux amis de Consuelo. Un privilège accordé seulement une fois par an à des invités triés sur le volet. Nina adore déjà son rôle. Les trois mousquetaires n'ont pas hésité une seconde à venir à la fête des Aristochats, dès qu'ils ont su que Nina en serait. On en a parlé à Béné, tout est officiel. Elle a halluciné quand on lui a annoncé qu'on était invité chez la fille de Vidame.
Vidame, Richard Vidame? Il invite des filles de foyer chez lui?
Elle a touché son ventre arrondi, comme si son bébé lui donnait des coups de pied pour participer à la fête lui aussi. Tu sais, Béné, ai-je dit en prenant mon air le plus naïf, Vidame est sûrement pas au courant. C'est pas écrit sur notre front qu'on est de la SE.
T'as parfaitement raison. Je suis tellement fière de vous.
Elle nous a embrassés. Nina a ajouté. Toi qui es douée en couture, Béné, et comme on doit venir déguiser, tu pourrais pas nous broder sur nos t-shirts « Petit chaton perdu à adopter ?» On a éclaté de rire. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas senti aussi bien toutes les trois. Steve aussi, d'une autre façon, hallucinait. Dès qu'on lui a parlé du chaniversaire, il est allé plusieurs fois en repérage jusqu'au Mont Fortin avec son 103. Une pente si raide que les trois chevaux de son moteur ne suffisaient pas pour la grimper sans pédaler. Il confirme, c'est l'une des plus belles maisons de Rouen, entourée d'un bois privé plus grand que l'ensemble des jardins publics de la ville, bénéficiant d'une vue sublime sur toute l'agglomération, les deux tours et la flèche de la cathédrale au premier plan, le méandre de la Seine comme une ceinture argentée au second. Rouen est un amphithéâtre, a expliqué Steve. Et le Mont Fortin, c'est la meilleure place. Les premières loges, au balcon, toutes réservées pour une seule famille. Un soir, après une nouvelle mitraillette de gravillon pour nous faire ouvrir notre fenêtre, il a sorti son quid sur le trottoir et nous a demandé
« Vous savez ce que veut dire Vidame ?»
Nina était en pyjama. Le thermomètre indiquait 3 degrés. Elle a fait signe à son Stevie chéri de se dépêcher s'il ne voulait pas qu'elle lui claque les volets au nez. Moi, j'attendais, étonnée. Vidame, pour moi, ce n'était qu'un nom de famille. La bouche sans dents de l'amoureux qui valait 3 milliards a avalé la lumière de son unique phare, puis a déclamé comme s'il jouait sur la scène d'au théâtre ce soir.
Vidame vient du latin vice dominus, qui signifie vice-seigneur. C'était un titre de noblesse plutôt rare. Le vidame, pour vous résumer, est celui qui percevait les impôts à la place des moines ou des curés.
Ça devait être le bon plan, non?
Toucher le blé sans même avoir besoin de prier.
Stevie a toujours le don pour m'épater. Nina lui a quand même claqué les volets au nez. Le chaniversaire a donc lieu demain, mon lieutenant. Je ne pense qu'à ça, mais toi tu t'en fous. Tu n'es même pas au courant. Tu ne sais même pas que Consuelo existe, ni même que Vidame aurait pu sauver ma mère cette nuit-là. Je suis installée au bar des Fleurs, place des Carmes. Quand je t'ai contacté, mon lieutenant, tu as tout de suite accepté de me parler.
Bien sûr, Ophélie, je me souviens de vous. D'accord pour vous rencontrer, mais pas au commissariat. L'affaire a été jugée, le dossier bouclé, votre père condamné, et même aujourd'hui libéré. Mais je vous dois bien une conversation. Cette histoire doit vous hanter, tout comme elle me hante moi aussi, mais je vous expliquerai.
Qu'est-ce qui te hante tant, mon lieutenant? Tu finis par arriver avec 10 minutes de retard. Tu commandes une pression et moi une mentalo. Tu ressembles au vieux flic qu'on voit dans les films. Tu portes un jean trop mou, un pardessus beige trop raide. Il n'y a que ton regard vert laser qui pétille encore. T'es un peu les ripoux à toi tout seul. L'allure fatiguée de Philippe Noiret et les yeux charmeurs de Thierry Lhermitte. Moi, je suis habillée avec une robe droite et une veste grise empruntée aux ados de la maison 3 à la prairie, pour faire plus vieille. Ça ne t'a pas empêché d'être surpris quand tu m'as vue, comme si tu t'attendais à te trouver face à une fille plus âgée. D'ailleurs, tu m'as tout de suite tutoyée. Tu balances quelques banalités, quelques questions sur ma vie au foyer. Tu lâches un sifflement admiratif quand j'évoque Camille C. Tu hoches la tête, compréhensif, quand je te dis que c'est trop tôt pour revoir mon papa, que j'ai un doute, que c'est pour ça que je continue de m'interroger, que j'ai retrouvé quelqu'un, un témoin. Sans te parler de ma grande ours, de mes 7 étoiles, de Mizar, alias Valérie Petit, la seule noctambule de l'immeuble Sorano que je n'ai jamais retrouvée. Je suis désolée, mon lieutenant, mais une petite voix en moi me murmure de me méfier, de ne pas mettre, comme on dit, tous mes œufs dans le même panier, surtout face à un poulet. Je te répète ce que Suzanne Buisson m'a appris. Le témoin à souhaite noire sur la passerelle, la photo. Je te fais glisser sur la table du café le dessin des 2 symboles. Visiblement, sauf si tu joues la comédie mieux que Noiret et l'ermite réunis, ça ne t'évoque rien.
Ton témoin n'était plus là, Ophélie, quand les secours sont arrivés. J'ai épluché des dizaines de photos, mais ton type avec son sweat à capuche ne se trouve sur aucune d'entre elles. Je vérifierai à nouveau si tu veux. Mais franchement...
Tu ne termines pas ta phrase, mon lieutenant, mais je devine ce que tu veux dire. Tu dois te demander si ma source est vraiment fiable, 6 ans après le drame. Heureusement que je ne t'ai pas avoué qu'elle venait de fêter ses 100 ans. D'ailleurs, toi non plus, mon lieutenant, tu ne m'as pas tout raconté. Je plante mes yeux noisettes dans ton regard laser. Vous m'avez dit au téléphone que cette affaire vous hantait. Tu vis d'un bon tiers de ta bière.
Ça ne te dérange pas que je te parle de ton père ?
Je secoue la tête pour te montrer que non.
Il faut que tu comprennes, Ophélie. Ton père, dans un premier temps, nous a dit qu'il se souvenait de rien. Trop noir éthylique, classique. Puis après 48 heures de garde à vue, il a fini par craquer et nous avouer tout ce qu'on voulait savoir. Ça lui arrivait de cogner sur sa femme. Ça, remarque, on le savait déjà. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire tant que ta mère ne voulait pas le quitter ? Malheureusement, ce soir-là, sur la passerelle, il a frappé trop fort et elle est passée par-dessus la balustrade. Un accident, a-t-il plaidé. Puis, après avoir vu son avocat 2 jours après, il s'est rétracté. Sa nouvelle version était qu'il était arrivé trop tard et n'avait rien vu. Ça se tenait aussi. Ce ne serait pas le premier suspect à nous avoir dit ce qu'on voulait entendre pour avoir la paix. Surtout avec 3 grammes d'alcool dans le sang.
T'es bien gentil, mon lieutenant. Mais tout ce que tu me racontes, je le sais déjà. Je mordis ma paille en surjouant la décontraction. Et vous ? Votre conviction ? Tu vides le second tiers de ta bière. Tu en as bu exactement autant qu'à la première gorgée. Tu as l'air assez méthodique comme garçon.
Ce que je vais te dire va être un peu dur. Tu vas pouvoir tenir le coup ?
Je hoche la tête. Tu te penches et sors un dossier de ta serviette fermé par un élastique. Tu l'entr'ouvres juste assez pour en sortir une feuille, mais pas assez pour que je puisse apercevoir les photos rangées à l'intérieur.
C'est le rapport d'autopsie. Je vais faire rapide et t'épargner les clichés pris par les médecins légistes. Ta mère est décédée d'un traumatisme crânien. À partir de là, on peut formuler 2 hypothèses. Soit le coup mortel a été porté avant qu'elle tombe de la passerelle et elle a basculé ou a été jetée ensuite par-dessus la balustrade. Soit c'est l'inverse. On l'a poussée et elle s'est tuée en tombant.
Tu n'oses plus me regarder, mon lieutenant. T'inquiète, continue. Je serre les dents. Et ça change quoi, que ma mère soit morte après être tombée ou avant ?
Ça change tout, ou presque. Si elle est décédée en tombant, c'est plus facile pour ton père de plaider l'accident ou l'homicide involontaire. Alors que si elle a succombé à cause d'un coup porté, c'est clairement un meurtre. Au final, ton père n'a choisi ni l'un ni l'autre, il a plaidé non coupable. C'était qui tout double ? Il a tout misé. Et il a tout perdu.
Tu ne me racontes pas tout, mon lieutenant. Je le sens à la façon dont tu te cramponnes à ta bière. Vous m'avez dit que cette affaire vous hantait depuis 6 ans. Tu vides le 3e tiers de ta bière.
Ouais. On a tous joué au ping-pong pendant l'enquête, entre les 2 hypothèses. Le décès avant ou après la chute de la passerelle. Mais curieusement, j'ai fini par réaliser qu'il y en avait une 3e, que personne n'avait jamais imaginée.
J'en avale ma menthe à l'eau de travers. Une 3e hypothèse. Qu'est-ce que tu vas m'inventer ? Tu regardes avec embarras ton verre vide.
Je l'ai compris des mois après, en regardant encore et encore les photos.
Tu m'énerves, mon lieutenant, à tourner autour du pot. Tu lèves enfin vers moi tes yeux verts d'eau, brillants, un peu trop.
Imagine, Ophélie. Imagine que ta mère ne soit pas décédée parce qu'on lui a porté un coup mortel, ni quand elle est tombée de la passerelle. Mais qu'elle soit morte après.
Désolée, je ne comprends pas. Tes mains s'agitent, ton regard me fixe.
Imagine, elle passe par-dessus la balustrade et saute de la passerelle pour échapper à ton père. Il n'y a que 3 mètres de hauteur, ça ne représente pas forcément une chute mortelle, loin de là. Ta mère se retrouve sur la rocade, quasi déserte, en pleine nuit. Imagine, elle se relève, ou est simplement encore étourdie, accroupie. Et elle se fait faucher par une voiture.
Je reste sans voix. Tu continues de dérouler ta théorie.
J'ai consulté les rapports d'autopsie. Le décès pourrait avoir été provoqué par une voiture qui n'a pas eu suffisamment le temps de freiner. Le choc renverse le corps, le crâne heurte le bitume, la victime roule, laissant des résidus de goudron sur chaque plaie. Personne n'y a pensé à l'époque, alors les médecins légistes, avant de délivrer le permis d'inhumer, n'ont jamais poussé les analyses dans cette direction. Aujourd'hui, même si les techniques médico-légales ont beaucoup progressé, il est trop tard pour savoir.
Et le chauffeur ?
Une chose est certaine. Si ma théorie était vraie, il ne s'est pas arrêté. Et on ne l'a jamais recherché.
Tu glisses le rapport d'autopsie dans ton dossier et tu fais claquer l'élastique.
Et on ne le retrouvera jamais. Sauf...
Tu regardes à regret ta bière vide.
Sauf si ton fameux témoin au sweat noir a pris une photo pile au bon moment. Une photo qu'il n'a jamais montrée à personne.
Je te recommanderais bien une autre bière, rien que pour te remercier, mon lieutenant. Mais tu t'es déjà levé.
Je vais chercher, Ophélie. Je te le promets.